Chapitre 9. Les événements de cette soirée, si désagréables pour Catherine, produisirent sur elle un effet tout particulier. Elle éprouva d'abord un mécontentement qui se porta sur toutes les personnes qui étaient au bal et qui dura tout le temps qu'elle y resta. L'ennui survint bientôt et produisit un désir vif de retourner chez elle. À peine y fut-elle arrivée qu'elle se sentit pressée d'un grand besoin de manger. Elle l'apaisa, et aussitôt celui de dormir s'empara d'elle. Elle se hâta de se mettre au lit, où la fatigue, occasionnée par les diverses sensations qu'elle avait éprouvées, la plongea dans un sommeil profond, sommeil qui dura 9 heures et qui lui rendit le repos et la gaieté. L'espoir revint aussi et lui donna de nouveaux projets. Elle prit la résolution d'entretenir la connaissance qu'elle avait faite de Miss Tilney. En pensant que celle-ci, en qualité de nouvelle arrivée, ne pouvait manquer de se trouver à la Pump Room, elle choisit ce but de promenade qui avait d'ailleurs de l'attrait pour elle par l'agrément qu'il lui offrait. En effet, c'était là qu'elle avait trouvé des amies intimes, c'était là qu'elle s'entretenait avec elles en petit comité et qu'elle se faisait leurs confidences, c'était enfin là qu'elle avait la presque certitude de voir les personnes qu'elle désirait rencontrer. Son plan arrêté, elle prit un livre, bien résolue de ne le quitter qu'au moment que l'horloge frapperait 1 heure. Les différentes exclamations, les apartés multipliés de Mistress Allen, lui causaient quelques distractions dont elle avait déjà pris l'habitude. Car bien que la nullité de l'esprit de cette dame et le vide de sa tête lui fournit peu de sujets de conversation, elle ne restait cependant pas pour longtemps dans le silence. Elle débitait toutes les pensées qui se présentaient à elle ou que le moindre objet faisait naître. Si, pendant qu'elle travaillait, son aiguille tombait, si elle cassait son fil, si elle apercevait une tache à sa robe, elle ne manquait pas d'en faire tout haut l'observation. Elle se parlait à elle-même et répondait à ses propres questions. Un peu après-midi et demi, un bruit assez grand se fit entendre dans la rue. Mistress Allen courut à la fenêtre. À peine eut-elle dit que c'étaient 2 voitures découvertes qu'elle les vit s'arrêter devant la porte de sa maison, et pendant qu'elle observait, oh, à sa manière, qu'il n'y avait qu'un domestique dans la première et que la seconde, où était Miss Thorpe, était conduite par le frère de Catherine, John se fit entendre en appelant Miss Morland tout en montant l'escalier. « Me voici, » dit-il en entrant. « Vous ai-je fait attendre trop longtemps ? Ce diable de sellier a été une éternité à réparer les harnais de mon cheval. Il trouvait toujours quelque chose à y refaire. Après nous avoir assuré qu'ils étaient en bon état, que nous pouvions partir, ne voilà-t-il pas qu'au milieu même de la rue, tout a été au diable ? Comment vous portez-vous, Mistress Allen ? Nous avons eu hier un beau bal, n'est-il pas vrai ? Allons, Miss Morland, dépêchez-vous. Les autres sont en bas, qui nous attendent et qui s'impatientent. « Que voulez-vous dire ? » répondit Catherine. « Où voulez-vous que j'aille ? » ?»« Où je veux que vous alliez ? Avez-vous déjà oublié que nous sommes convenus que je vous conduirai ce matin à Claverton Down ? Tu Dieu, quelle tête vous avez ! » !»« Je me souviens effectivement que vous avez parlé de faire cette partie, » dit Catherine en regardant Mistress Allen, comme pour lui demander ce qu'elle en pensait. « Mais réellement, je ne vous attendais pas. » « Vous ne m'attendiez pas ? Voilà qui est bon. Que comptiez-vous donc faire ce matin si je ne fusse venue ?» Catherine garda le silence. Ses regards sollicitaient de plus en plus Mistress Allen de lui dicter la réponse qu'elle devait faire. Mais Mistress Allen ne connaissait rien au langage des yeux. Jamais elle n'y faisait attention. Cependant, le plaisir qui se présentait produisit son effet sur Catherine. Il balança... Il affaiblit peu à peu le désir qu'elle avait de voir Miss Tilney. D'un autre côté, Mistress Allen ne faisait point d'objection contre cette promenade et Catherine pouvait d'autant moins en trouver qu'elle voyait qu'Isabelle était avec James, comme John lui proposait d'aller avec lui. Malgré ses dispositions, elle ne voulut cependant pas se décider sans avoir consulté Mistress Allen. « Eh bien, Mistress, lui dit-elle enfin, qu'en pensez-vous ? Puis-je vous quitter durant 1 heure ou 2 et accepter la promenade qu'on me propose ? « Faites comme il vous plaira, ma chère, » répondit Mistress Allen avec la plus calme indifférence. Catherine n'eut pas de peine à se décider. Aussitôt, elle courut se préparer, revint au bout de quelques minutes, ayant à peine laissé à M. Thorpe le temps de faire admirer son gig à Mistress Allen. Celle-ci leur souhaita du plaisir dans leur promenade et ils la quittèrent. « Cher ami !» s'écria Isabelle, qui, en la voyant, se livra comme à son ordinaire au transport de la plus vive joie. « Cher ami, vous avez été au moins 3 heures à vous préparer. Je mourrais d'inquiétude que vous ne fussiez malade. Le délicieux bal que nous avons eu hier, j'ai 1000 choses à vous dire. Mais dépêchons-nous de partir, nous n'avons point de temps à perdre. » Catherine, qui s'était approchée pour lui souhaiter le bonjour, la quitta pour monter de suite, suivant le désir d'Isabelle, dans la voiture de John, et elle entendit dire à James « Oh, la douce, la charmante fille, je l'aime de passion !»« Ne vous effrayez pas, Miss Morland, » lui dit M. Thorpe en lui donnant la main pour monter en voiture. « Ne vous effrayez pas si mon cheval se laisse aller à quelque gaieté en partant. Il est si fringant qu'il fera 1000 caracoles. Mais soyez tranquille, dès qu'il sentira la main de son maître, il sera bientôt à la raison. Il est plein d'ardeur, mais je le rends doux comme un mouton. » Catherine, qui n'avait aucune raison pour douter de la vérité de ce que disait M. Thorpe, n'était pas sans crainte sur les dangers qu'elle courait avec un cheval aussi vif. Mais elle était trop avancée pour reculer, et la confiance de la jeunesse vint promptement remplacer le petit mouvement d'hésitation qu'elle avait eu. Elle sauta légèrement dans la petite voiture, et le fashionable Thorpe se plaça près d'elle. Alors John ordonna d'une voix impérieuse et dure au valet qui se tenait à la tête du cheval de le laisser aller. Mais la pauvre bête partit très paisiblement au pas et sans caracole. Catherine, contente d'échapper au danger qu'elle avait craint, exprima sa joie et sa surprise. Son compagnon l'assura que c'était au talent qu'il avait pour conduire qu'elle était redevable de la sagesse de son cheval, qu'il savait le maîtriser et le rendre docile par la manière dont il se servait des guides et qu'il lui faisait sentir la main. Catherine pensa que c'était bien inutilement qu'il l'avait d'abord effrayée, puisqu'il était si sûr de contenir son cheval, et se félicita en même temps d'être avec un aussi bon conducteur. L'animal continua à suivre son allure, sans témoigner la moindre propension à s'animer, ce qui tranquillisa tout à fait Catherine et lui permet de se livrer entièrement au plaisir de faire une jolie promenade par un beau soleil du mois de février, et même de le faire à célestement. Car elle se ressouvenait que John lui avait dit que son cheval ne pouvait faire moins de 10 miles par heure. Un assez long silence succéda au court dialogue qu'ils avaient eu dans le premier moment. M. Thorpe rompit ce silence en disant assez brusquement « Ce vieux Allen est riche comme un juif, n'est-il pas vrai ?» Catherine répondit qu'elle ne comprenait pas ce qui se disait. Il répéta la question en ajoutant « Le vieux Allen, avec qui vous êtes ?»« Oh, c'est de M. Allen que vous parlez ? Oui, je le crois très riche. » « Il n'a point d'enfant ?»«
Non. »«
Fameuse succession. C'est joli pour un héritier. Il est votre parrain, n'est-ce pas ?»«
Mon parrain, à moi ?»«
Non, vraiment. »« Mais vous êtes toujours chez lui ?»«
J'y vais très souvent. » »«
Ah, j'entends, j'entends. C'est un bon vivant, le papa. Il en a fait des siennes dans le temps, je le gagerai. Et il n'est pas goûteux pour rien. » Boit-il bien sa bouteille par jour ? Une bouteille par jour ? Non, assurément. Comment pouvez-vous le penser ? C'est un homme très sobre. Vous en avez été témoin la nuit dernière au bal. Bon Dieu, vous autres femmes, vous vous imaginez qu'un rien suffit pour nous enivrer. Croyez-vous donc qu'un homme ne puisse soutenir sa bouteille ? Pour moi, je suis sûr que si chaque homme en buvait une par jour, il n'y aurait pas de moitié autant de désordre que l'on en voit maintenant. Ce serait bon pour tout le monde. J'ai peine à croire cela. Oh, diable, c'est pourtant bien vrai. comme il l'est également qu'on ne dépense pas la centième partie du vin dont notre climat brumeux rend la consommation nécessaire. J'ai cependant entendu dire qu'elle était grande à Oxford. À Oxford, il n'y a point de buveur à Oxford. Vous y trouverez à peine un homme capable de boire ses quatre mesures. C'est le plus. Il faut avouer pourtant que, pendant notre dernier séjour à Oxford, on a remarqué que, d'après calcul fait, l'un dans l'autre, nous buvions chacun 5 pintes par jour. Cela peut vous paraître extraordinaire. Pour moi, ce n'est qu'une bagatelle, et je ne vous dis cela que pour vous donner une idée juste de ce qu'un homme peut boire sans qu'il y paraisse. Vous m'en donnez vraiment une belle idée, reprit vivement Catherine. Comment imaginer, en effet, qu'il soit possible de boire autant que vous dites que vous buvez? James, je l'espère, ne suit pas votre exemple. La chaleur qu'elle avait mise dans cette réponse lui en attira une bien autrement vive, toute remplie de fréquentes exclamations entremêlées des jurements qui faisaient les ordinaires ornements des discours de John. Cette réponse ne fit que confirmer Catherine dans l'opinion où elle était qu'il se faisait une grande consommation de vin à Oxford, que John était un des zélés consommateurs et qu'en comparaison de lui, James pouvait être cité pour sa sobriété. Thorpe, voyant la mauvaise tournure que cette conversation avait prise, se remit à parler du mérite de son équipage. Il fit de nouveau le détail des précieuses qualités qui distinguaient son cheval de la vitesse, du moelleux de ses mouvements, lesquelles, selon lui, étaient telles qu'il rendait presque insensibles ceux de la voiture. Catherine, sans aucune connaissance sur un pareil sujet, et avec beaucoup de méfiance d'elle-même, ne pouvait qu'écouter et faire de temps à autre une simple réponse approbative. C'était d'ailleurs la seule que lui permettait la volubilité de la langue de son compagnon. Elle devint ainsi, en quelque sorte, l'écho des louanges que celui-ci se donnait. Et sans la moindre difficulté, il fut convenu entre eux que l'équipage de M. Thorpe l'emportait de beaucoup sur tous ceux de son espèce qui existaient en Angleterre, qu'il était le plus léger de tous, que son cheval était le meilleur coureur, que lui-même était le plus habile conducteur. Tous ces points étant décidés et la matière paraissant épuisée sur ce sujet, Catherine, après quelques moments de silence et pour faire diversion, se hasarda à demander à son compagnon s'il pensait que le gig dans lequel James était fût solide. « Solide ? Ah, pardieu ! De votre vie, vous n'avez vu une semblable patraque. Il n'y a pas un fer qui tienne. Les roues pouvaient être belles et bonnes, il y a 10 ans, la caisse de même. Sur mon âme, si vous vouliez en prendre la peine, avec le plus léger effort, vous parviendriez seul à la mettre en 1000 pièces. C'est la plus détestable carriole que l'on puisse voir. Je ne voudrais pas, pour 1000 livres, être obligé de faire seulement 2 miles là-dedans. Grâce à Dieu, la nôtre est bien différente. » « Bon Dieu ! » s'écria Catherine, très effrayée. « Il faut absolument nous en retourner. Si nous continuons, il arrivera infailliblement quelque accident. De grâce, monsieur Thorpe, retournons. Arrêtez, arrêtez ! Parlez à mon frère du danger qui court. » « Courir du danger ? Eh, parbleu, qu'est-ce que cela fait ? Si la voiture casse, eh bien, ils rouleront par terre. Le terrain est uni, la chute ne sera pas désagréable. Au surplus, tranquillisez-vous, il ne s'agit que de savoir bien conduire la voiture. Une vieillerie comme celle-là est encore assez solide pour durer 20 ans si elle est en bonne main. Tenez, je parie 50 livres que je la conduise à York et la ramène sans qu'il y manque un clou. » Tout ce que Catherine entendait la jetait dans le plus grand étonnement. Elle ne savait comment concilier des opinions si différentes sur le même sujet. Les discussions étaient pour elle des choses inconnues. Jamais il ne s'en était soutenu dans sa famille sur quelque sujet que ce fût. Si quelqu'un en entamait une, elle était arrêtée sur le champ, ou par une pointe, ou par une plaisanterie faite par son père, ou par un proverbe cité par sa mère. Elle avait bien moins encore été dans le cas de connaître les faussetés et les contradictions dont la vanité se sert pour se faire valoir. Jamais chez ses parents, on ne pensait à recourir à des détours peu véridiques pour se donner quelque importance, ni à assurer une chose pour la démentir quelques moments après. Tout, jusqu'à ses réflexions, contribuait à la tenir dans l'incertitude la plus pénible. D'abord, elle chercha à s'assurer par de nouvelles questions si M. Thorpe croyait réellement que la voiture de James fût dans le cas de se briser. Et enfin, comparant tout ce qu'elle venait d'entendre, elle n'y trouva rien que de vague et d'incertain. Elle s'arrêta à l'idée que M. Thorpe ne voudrait pas laisser courir à sa sœur et à son ami un danger qu'il pouvait si facilement prévenir. Elle se persuada que cette voiture n'était pas en si mauvais état qu'il le disait, et elle se tranquillisa à ce sujet. John lui-même montra qu'il avait perdu toutes ses craintes, car dans tout le reste de la conversation, ou pour mieux dire de son monologue, il ne parla plus que de lui et de ceux qui le concernaient. Il fit le récit de tous les marchés de chevaux qu'il avait terminés, tantôt pour des bagatelles, tantôt pour des sommes énormes. Il désigna de quelle race provenaient tous ceux qu'il avait eus. Il énuméra tous les paris qu'il avait faits sur des courses et qu'il avait gagnés par ses connaissances, qui lui faisaient juger infailliblement de la valeur et de la vitesse d'un cheval. Il détailla tous les mauvais pas dont l'ardeur de son excellent coursier l'avait tiré sans le moindre accident, tandis que ses camarades y étaient presque tous restés. Ensuite, il se vanta de tuer à lui seul à la chasse plus de gibier que tous les autres ensemble. Il fit la description de quelques fameux traques au renard. Il raconta comment, dans telles occasions, il avait été obligé de se charger de diriger lui-même les chiens, de rectifier la marche de la meute, de réparer les méprises des chasseurs les plus expérimentés. Catherine avait trop peu de connaissances sur tous ces objets pour pouvoir apprécier au juste de tels récits, et comme elle avait des notions trop incertaines sur les qualités auxquelles un homme peut atteindre, elle n'osait entièrement repousser les doutes qui naissaient dans son esprit sur les prouesses de John et les éloges sans fin qu'il se donnait. Il était frère d'Isabelle, ses manières plaisaient à toutes les femmes d'après l'assurance donnée par James. Cependant, en dépit de ces deux autorités, la fatigue que lui faisait éprouver cette société, fatigue qui ne tarda pas à se faire sentir et qui s'accrut constamment jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés en Pulteney Street, lui fit naître quelques doutes sur l'infaillibilité du jugement de son frère et de son ami. Elle commença à faire usage du sien et à s'arrêter à la pensée que le plus grand des plaisirs n'était pas celui d'avoir M. Thorpe pour partenaire, soit en voiture, soit au bal. Lorsque les voitures furent arrivées devant la porte de Mistress Allen, Isabelle donna des marques éclatantes du plus grand étonnement en apprenant qu'il était aussi tard. 3 heures passées, cela était inconcevable, incroyable, impossible. Elle ne voulut s'en rapporter ni à sa montre, ni à son frère, ni au domestique. Selon elle, chacun voulait la tromper, et elle ne céda que lorsque M. Morland, tirant lui-même sa montre, lui prouva la vérité de l'assertion générale. Comment alors se refuser à croire? Le doute eût été ridicule. Elle n'en protesta pas moins contre l'assertion de tout le monde qu'il était impossible qu'elle eût été 2h30 à la promenade. Elle appela Catherine en témoignage. Celle-ci, qui ne pouvait dire une fausseté même pour plaire à son amie, s'accorda avec les autres. Mais c'était peine perdue. Isabelle ne fit aucune attention à sa réponse. Elle était trop préoccupée de ce qui remplissait sa tête. Il était tard, il fallait incontinemment retourner chez sa mère. Depuis des siècles, elle n'avait eu un seul moment de conversation avec sa chère Catherine, et elle avait tant de choses à lui dire. Jamais elles ne pouvaient être seules ensemble. Enfin, avec le sourire le plus tendre, les yeux mouillés de larmes, elle embrassa sa chère Catherine et partit. Cette dernière trouva Mistress Allen entièrement débarrassée des soins de la matinée. Elle en fut accueillie par un « Eh bien, ma chère! Ah, vous voilà! J'espère que vous avez eu du plaisir à votre promenade. »
« Oui, mistress, je vous remercie. Nous ne pouvions avoir une plus belle journée. »
« C'est ce que me disait mistress Thorpe. Elle était charmée que vous en eussiez profité. »
« Vous avez vu mistress Thorpe ?»«
Oui, aussitôt que vous avez été partie, je suis allée à la pump room où je l'ai rencontrée. Nous avons beaucoup causé ensemble. Elle m'a dit que le veau était extrêmement rare, qu'on n'avait presque pas pu en trouver au marché ce matin. »
« N'avez-vous pas vu d'autres personnes de votre connaissance ?»
Arrivés au demi-cercle, nous avons eu le plaisir de rencontrer mistress Hugues. Monsieur et Miss Tilney se promenaient avec elle.
« En vérité, se sont-ils arrêtés avec vous ?»«
Oui, nous nous sommes promenés ensemble plus d'une heure. Je les trouve très aimables. Miss Tilney avait une jolie robe de mousseline brodée. Il y a apparence qu'elle se met toujours bien. Mistress Hugues m'a raconté beaucoup de choses sur la famille de cette jeune personne.
Et qu'a-t-elle pu vous dire?
Oh, beaucoup de choses. Elle ne m'a parlé que de cela.
Vous a-t-elle dit en quelle partie de Gloucestershire elle réside?
Oui, elle me l'a dit, mais je ne m'en souviens pas bien. Monsieur et Miss Tilney sont d'une bonne famille. Mistress Tilney était une Miss Drummond. Elle et Mistress Hugues étaient camarades d'école. La première avait une grande fortune. Quand elle s'est mariée, son père lui a donné 20 000 pièces et elle en a eu 500 pour son trousseau. Mistress Hugues a vu toutes les robes au moment même qu'on les a portées.
Monsieur et Mistress Tilney sont-ils à Bath?
Je crois qu'ils y sont. Cependant, je n'en suis pas bien sûre. Mais en me le rappelant, j'ai quelque idée qu'ils sont morts, du moins mistress.
Oui, oui, j'en suis sûre. Mistress Tilney est morte, j'en suis assurée maintenant.
Car Monsieur Drummond avait donné à sa fille, le jour où elle s'est mariée, un superbe rang de perles et Miss Tilney l'a eu à la mort de sa mère.
Monsieur Tilney, mon partenaire, est-il le seul fils de cette famille ?
Je n'en suis pas bien sûre, ma chère. J'ai cependant quelque idée qu'il est fils unique. C'est un beau jeune homme de mérite et fort aimé de tout le monde, suivant ce que dit mistress Hugues.
Catherine n'étendit pas ses questions plus loin. Elle vit aisément, par les réponses de mistress Allen, que celle-ci n'avait rien de plus à lui apprendre sur l'objet qui l'intéressait. Elle fut extrêmement contrariée d'avoir manqué une si belle occasion de se trouver avec monsieur et Miss Tilney. Si elle avait pu la prévoir, rien assurément ne l'aurait décidée à accepter la proposition de monsieur Thorpe. Elle accusa son mauvais sort de l'avoir privée du plaisir qu'elle désirait et de l'avoir comme forcée de passer si désagréablement son temps avec un homme qui lui parut alors plus fâcheux et plus insupportable que jamais.